Bonsoir, rentrons ensemble dans le temps du débat, comme chaque soir, sur France Culture, entre 18h20 et 19h, entre le lundi et le vendredi. À l'ordre du jour ce soir, les réseaux sociaux fixent-ils l'agenda du débat? L'affaire Mila, du nom de cette jeune fille de 16 ans, menacée de mort pour avoir attaqué violemment la religion musulmane dans un échange sur Instagram, a montré comment médias traditionnels et réseaux sociaux interagissaient à grande vitesse pour créer un scandale de première ampleur, dont le dernier rebond a eu lieu ce matin avec la publication dans le Dauphiné Libéré d'un entretien avec le président de la République, qui réaffirme d'ailleurs, à propos de cette affaire, le droit au blasphème et à la critique de la religion. Cet échauffement médiatique et politique renverse une hiérarchie traditionnelle des médias qui s'était donnée pour but d'éclairer le débat démocratique en choisissant les termes et en ne réagissant pas immédiatement à tous les scandales. Nous nous demandons donc ce soir, dans le temps du débat, si ce ne sont pas les réseaux sociaux qui choisissent désormais le rythme et l'ampleur de nos débats, avec Jérôme Lèbre. Bonsoir Jérôme Lèbre.
Bonsoir.
Vous êtes ancien membre du Collège international de philosophie et auteur chez Desclés de Brouwer de Scandale et démocratie, qui est paru à l'automne dernier. Et Dominique Boulier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue et linguiste, professeur à Sciences Po et auteur d'un ouvrage à paraître à la rentrée prochaine, Lutter contre le réchauffement médiatique. On parlera de réchauffement avec vous. Et Arnaud Mercier, bonsoir. Vous êtes au téléphone avec nous.
Bonsoir.
Vous êtes professeur en sciences de l'information et de la communication à Paris 2, Panthéon Assas, et vous intéressez en particulier à ces réseaux sociaux, aux fake news et à tout un tas d'autres manières d'évoquer ces questions. Et d'ailleurs, puisque nous parlons de l'affaire Mila, eh bien, écoutons trois interventions qui ont eu lieu, trois interventions politiques autour de cette question-là. La secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, l'ancienne ministre Ségolène Royal et le vice-président du Rassemblement national, Jordan Bardella.
Sur le harcèlement de la jeune Mila, j'étais évidemment, comme tout le monde, très choquée et je lui ai apporté mon soutien, non pas en faisant un tweet, mais en faisant contacter sa famille directement. Et sa famille nous a fait part de leur souhait, d'abord, un, de ne plus voir sa photo et sa vidéo diffusées sur les réseaux sociaux. Et donc j'ai adressé un message à la presse en leur demandant de ne plus le faire, si c'était possible, pour la protéger, elle. Et deuxième chose, il nous a dit qu'il ne voulait pas de récupération politique d'aucune sorte. C'est la raison pour laquelle je ne me suis pas exprimée plus que ça, mais je lui ai évidemment apporté mon soutien.
La laïcité, c'est deux choses. C'est la liberté de conscience et c'est la liberté de culte. Et c'est la séparation de l'Église et de l'État.
Et la liberté de critiquer les religions, c'est aussi dedans.
Il y a une liberté de critiquer les religions.
Elle doit être totale.
Attendez, mais moi, je refuse de poser le débat sur la laïcité à partir des déclarations d'une adolescente de 15 ans. Parce que c'est pas à partir de comportements comme cela qu'on peut poser sérieusement la question de la laïcité.
Donc vous ne mettriez pas le hashtag « Je suis Mila » sur Twitter ?
Absolument pas.
Un symbole de courage et surtout un symbole de liberté. Mila est derrière cela un symbole français. Beaucoup de responsables politiques se font les alliés objectifs des islamistes qui aujourd'hui militent pour établir le délit de blasphème dans notre pays et pour imposer à la société française les interdictions qu'ils s'imposent à eux-mêmes. Il y a quelques années, lorsque nous étions Charlie, nous étions tous Charlie.
Vous êtes donc Mila, comme on
Charlie,
dit aujourd'hui.
Je suis Mila, comme j'étais Charlie hier.
Voilà donc une affaire qui commence le 18 janvier par un post sur Instagram, comme on dit, et qui, en l'occurrence, eh bien, se développe le 28 janvier par cette déclaration de Marlène Schiappa sur France Inter, où elle dit elle ne veut plus, et sa famille ne veut plus voir la vidéo et la photo de Mila sur les réseaux, elle ne veut pas de récupération politique, manque de chance, eh bien, Ségolène Royal, le 2 février, s'exprime, le 4 février, Jordan Bardella, tout un tas d'autres personnes, Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, et encore tout récemment, puisqu'il a été interpellé par la presse régionale, à savoir le Dauphiné Libéré. Le président de la République s'était publié ce matin. Dominique Boulier, qu'est-ce qu'il faut penser d'une affaire comme celle-ci pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire sur l'idée de l'agenda du débat, l'agenda des médias, fixé ou non par les réseaux sociaux?
Alors quand on dit fixer un agenda, en sciences politiques, on a l'habitude effectivement d'utiliser cette expression, mais on dit précisément soit d'une part attirer l'attention et focaliser l'attention, alors là on voit bien que c'est réussi, on va y revenir tout à l'heure, et deuxième aspect, le cadrer le débat, c'est-à-dire donner les cadres de son interprétation. En l'occurrence ici, on voit bien que la façon dont l'amplification qui est au cœur même du mécanisme des réseaux sociaux et de la propagation fait qu'on a, à partir du moment où il y a à la fois une expression choquante d'un côté et une réaction absolument scandaleuse de l'autre, effectivement. Donc à ce moment-là, on voit bien que ça, tout ça est amplifié par les réseaux sociaux à très grande vitesse. Donc c'est le mécanisme interne de tout cela qui ne, où on se rend compte que personne n'est indemne. C'est-à-dire, au bout du compte, les médias, traditionnellement, ne peuvent plus résister. Ça ne veut pas dire pour... Alors il y en a certains qui ont résisté, mais qui, si vous voulez, ça devient une telle pression qu'on ne peut plus. Et dans le même temps, la façon dont était cadré le débat sur cette question-là, on voit bien qu'en réalité, c'est quand même pas les réseaux sociaux qui le cadrent, parce qu'en réalité, on retombe sur des débats, mais qu'on traîne depuis des années sur la laïcité, avec des schémas déjà bien établis, et c'est reparti pour un tour, et on recommence la même chose, les mêmes positions,
etc. On l'a connu autour du voile, par exemple, à l'automne dernier, par exemple.
De Bourgogne, ouais. Exactement, oui, tout à fait. Donc, tout prétexte sert à ça, à ressortir effectivement le même cadrage, et avec ce problème-là, c'est qu'on a bien l'impression qu'on n'avance pas d'un iota là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on alimente, parce que quand on part d'un cadrage issu des réseaux sociaux, on voit bien que la partie de haine et d'expression extrême prend le dessus sur tout le reste et sur toute la possibilité du, comme vous avez un titre d'émission qui est absolument remarquable, temps du débat. Donc il n'y a ni débat, ni temps pour débattre. Vous voyez, en gros, c'est une caricature.
On en discutera pendant toutes ces 40 minutes avec vous, Arnaud Mercier. Donc qu'est-ce que vous pensez justement de cet emballement? C'est comme ça qu'on traite généralement de ces questions médiatiques. On dit l'emballement médiatique. Est-ce que c'est une bonne expression et surtout dans le rapport qu'il peut y avoir entre médias traditionnels et médias électroniques et liés justement à la twittosphère.
Oui, il y a très clairement une articulation qui se passe parce que les réseaux sociaux sont utilisés comme, j'allais dire, un infra-espace public pour une partie d'acteurs qui d'habitude n'ont pas accès à l'espace public et médiatique, mais qui du coup peuvent prendre la parole. Et on a vu souvent des phénomènes qui ont une existence dans cet espace public numérique non médiatique, qui prennent une certaine ampleur, j'allais dire, en autonomie, c'est-à-dire que la polémique gonfle par des mécanismes qui sont propres à la manière de s'exprimer sur les réseaux sociaux, dans lesquels, effectivement, l'expression de l'agressivité, dans cette, l'idée que c'est... Il y a une espèce, moi j'ai appelé ça un ensauvagement du web, où on peut tout dire, y compris grâce à l'anonymat, et on se permet des tas de choses. Eh bien, ça déclenche des polémiques, et quand le phénomène prend une certaine ampleur, alors l'espace public médiatique s'en empare, et quand il s'en empare, il donne à la fois une plus grande publicité, c'est-à-dire que des gens qui ne sont pas habituellement sur Twitter, sur Instagram, etc., donc on n'aurait pas vu sans cela cette polémique, tout d'un coup sont informés de cela, donc ça donne une visibilité supplémentaire, donc ça décuple l'effet de polémique, et en même temps, en effet, comme vient de le dire Dominique Boulier, il y a l'appropriation par les médias provoque un certain cadrage des choses, peut susciter d'ailleurs l'intervention des politiques, parce que dans un certain nombre de cas, c'est pas forcément les politiques qui ont pris directement la parole, mais comme vous étiez invité sur un plateau, les journalistes leur ont posé la question.
Bien sûr.
Vous, alors vous êtes mis là, etc. Donc il y a cette articulation, et comme c'est effectivement un sujet, pour répondre à la deuxième partie de votre question sur l'emballement, que c'est effectivement un vieux sujet, que tout ça, on pourrait dire, date de 1984, effectivement, de ces jeunes adolescents qui refusent d'enlever le foulard pour aller au collège, et puis à partir de là, on a commencé à...
89, je crois.
Vous voyez, enfin, alors...
Oui, 89, c'était il y a 30 ans, effectivement, à Creil. Oui.
Et à partir du moment où on re-questionne la laïcité avec la question de l'intégration des gens d'origine musulmane, eh bien, effectivement, on a l'impression d'assister à une énième ressucée, avec en plus un doux parfum de scandale, puisqu'on a d'un côté une adolescente qui est extrêmement vulgaire et agressive, et de l'autre côté des gens qui la menacent de mort, et tout le monde se dit c'est de la folie pure d'oser menacer de mort quelqu'un simplement parce qu'il a dit qu'il a testé une religion. Bref. Il y a le parfum de scandale et donc il y a l'emballement, en effet.
Jérôme Lèbre, vous êtes auteur d'un livre qui est paru à la rentrée dernière, donc au mois d'octobre dernier, qui s'intitule « Scandale au pluriel et démocratie » chez Des Clés de Brouwer. Et vous avez réfléchi en tant que philosophe à la place du scandale dans une société démocratique, évidemment. Un scandale qui peut être bienvenu, dites-vous, expliquez-vous dans ce livre, c'est-à-dire que ça fait partie effectivement de la manière de révéler ce qui ne va pas dans une société démocratique, mais qui parfois peut tourner effectivement à l'outrage et à autre chose, c'est-à-dire à quelque chose qui peut abîmer la démocratie. Est-ce qu'une affaire comme celle-ci, telle qu'elle s'est développée, etc., est symptomatique de cette question que vous abordez dans votre travail ?
Oui, elle l'est. D'ailleurs, j'ai aussi abordé la question de la laïcité et du voile, en particulier à propos de l'affaire du Burkini, qui pour le coup, j'y pensais, sert un petit peu de répondant par rapport à celle que vous citiez, parce que l'engagement du politique y est très important en plein été, avant une élection présidentielle. Et là, il y a une sorte d'initiative très forte du politique de façon à faire ressortir ce thème de la laïcité, en particulier avant des primaires de la droite. Voilà, parce que il faut se dire aussi que finalement l'agenda politique, dans une démocratie comme la nôtre, qui est en même temps très hiérarchique, et d'une manière institutionnelle fixée par le pouvoir exécutif, que lui-même quelquefois la perturbe très volontairement. Je pensais au discours qu'avait fait à Grenoble Sarkozy en plein été, alors que personne ne l'attendait sur l'immigration, donc bousculant le propre agenda qu'il avait prévu. Et bon, quelquefois ça vient d'ailleurs. Et ce qui compte, c'est finalement l'imbrication de cela. C'est ça qui fait la démocratie.
Dans votre travail sur Scandale et démocratie, en tant que philosophe, vous insistez sur l'idée que, par exemple, l'Internet nous rend à notre statut d'individu, mais d'individu qui a besoin des autres pour exister. Vous dites, en fait, chaque individu n'y a sa place que si la réaction est reprise par un autre, likée, commentée, partagée. Et c'est donc cela qui fait de nous des individus médiatisés, qui fait de nous des personnages importants dans cette sphère des réseaux sociaux, des individus populaires, dites-vous, qui se distinguent des autres et qui n'ont pas la même popularité, évidemment, que ceux qui reprennent les débats qui sont nés sur Internet, et en particulier les personnels politiques dont on a parlé tout à l'heure.
Oui, disons que ce qui m'intéresse, c'est de voir comment de nouveaux moyens comme ça, de techniques, en l'occurrence de communication, viennent amplifier des phénomènes qui ont toujours existé, en même temps les modifier. Et là, en fait, il s'agit de ce phénomène de l'échange, de la communication, de l'expression qui est là et qui, en fait, va changer certaines choses et va en renforcer d'autres. Et en particulier au niveau de cette popularité, la plupart du temps, cette popularité sur les réseaux s'est faite ailleurs. Elle s'est faite, en fait, dans les mondes assez traditionnels de la politique ou des médias. Une star sur Twitter est une star ailleurs, soutenue par exemple par de grandes majors de diffusion de films ou de musique. C'est pas non plus un bouleversement radical, ce sont des modifications, des changements.
Dominique Boulier, tout de même, vous posez des questions dans le livre à paraître sur la lutte contre le réchauffement médiatique. C'est que les plateformes qui font leur argent avec ces débats médiatiques, etc., les grandes plateformes qui nous viennent d'outre-Atlantique, mais les autres aussi, se posent aussi des questions sur cet emballement dont ils sont à la fois les acteurs et parfois qui peut leur retomber dessus. Twitter, qui devient donc un endroit essentiel de la discussion journalistique, journalistico-politique, par exemple, se pose la question de savoir s'il faut ou non supprimer le petit like qu'il y a sur tous les tweets, et peut-être même les RT, les retweets, qui permettent justement cet emballement qui fait partie de la discussion publique.
Alors c'est effectivement une évolution, sous pression sans doute du politique et d'un certain nombre de scandales liés à Cambridge Analytica, etc., que les plateformes commencent à se rendre compte qu'elles ont quand même, elles vont difficilement échapper à leurs responsabilités là-dessus.
Ce qu'elles voulaient jusqu'à maintenant.
Jusqu'ici, elles ont toujours fait pour dire nous ne sommes surtout pas des médias, nous ne voulons pas de responsabilité éditoriale.
Voilà. Nous sommes les tuyaux. Nous exactement. Laissons passer des messages, mais nous n'avons pas la responsabilité sur ces messages.
Alors, y compris Facebook avait trouvé une solution qui consiste à dire on pousse tout le monde vers les groupes, puisque l'algorithme va encourager et valoriser les activités des groupes, et de cette façon-là, il y aura au moins un responsable de groupe, enfin, administrateur qui, lui, pourra servir de pare-feu, j'allais dire, par rapport à leurs propres responsabilités. Mais l'intérêt, c'est qu'effectivement, s'ils vont dans cette logique-là, leur logique, quand même, ne sera pas de devenir des médias.
Ça, ils ne le veulent pas.
De Facebook, ils ne veulent surtout pas, du moins, mais c'est le cas aussi de Twitter. En revanche, ils vont pouvoir élaguer certaines des métriques, certaines des calculs, certains des petits signaux qu'on appelle effectivement ces affordances, nous en technique, c'est-à-dire c'est les choses qui vous permettent de faire quelque chose. Et ce sont des petits signaux qui capte votre attention, parce que quand vous publiez quelque chose, eh bien, vous êtes attentif au nombre de likes, vous êtes attentif au nombre de followers ou de comment, ou d'abonnés, par exemple, sur, comment, sur Instagram, et vous devenez presque, vous finissez par publier aussi en fonction de ça. C'est-à-dire qu'on apprend, un YouTuber, par exemple, apprend à publier pour obtenir ces scores-là. Donc, vous, comme on disait mon collègue, effectivement, il y avait un bouquin qui s'appelait il y a très longtemps Me the Media, c'est-à-dire effectivement, le moi est devenu le média, mais il faut bien dire que c'est dans le cœur du business model, le modèle d'affaires de ces firmes-là, puisque c'est ces traces que l'on génère et cette réactivité qui est suscitée, qui va pouvoir être l'objet de placements publicitaires.
Alors, Arnaud Mercier, vous êtes professeur en sciences de l'information et de la communication, et tout compte fait, on peut se dire aussi que ce qui arrive là, c'était aussi le rôle de la presse, repérer les, ce qu'on appellerait les signaux faibles aujourd'hui, c'est-à-dire repérer ce qui vaut le coup d'être hiérarchisé, remonté à l'intérieur des pages d'un journal en se disant il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est symptomatique de la société dans laquelle on vit. C'est ce que faisait traditionnellement la presse depuis le milieu du 19e siècle, théoriquement, qui s'est petit à petit amélioré dans ce domaine-là. Et tout compte fait, repérer les débats qui naissent sur Internet et dans les réseaux sociaux, c'est aussi le travail de la presse, on pourrait dire, même si, effectivement, quelquefois, on la sent un peu à la remorque de ces réseaux sociaux.
Oui, je suis complètement d'accord avec vous. D'ailleurs, c'est un nom, ça s'appelle en bon français le crowdsourcing. Hein, et maintenant, on l'enseigne dans toutes les formations des écoles de journalisme. En effet, on peut considérer, quand on est journaliste, qu'on essaye de prendre le pouls de la société, ou prendre, si on est journaliste un peu plus spécialisé, le pouls d'un secteur d'activité, d'un secteur social, et que du coup, l'observation de groupes Facebook, de comptes Twitter, fait partie du job. Vous l'avez dit, là où, par où tout a commencé de ce point de vue, c'est évidemment les relations entre les journalistes et les hommes politiques. Et on a vu comment les journalistes se sont mis à suivre les personnalités politiques pour voir ce qu'ils disaient sur ces réseaux, parce que ça devient une source comme une autre. Donc, en effet, vous avez raison, c'est bien logique. La vraie question qui se pose, c'est si on utilise cette fonction, cette mise à disposition d'une parole publique assez libre, même si parfois elle devient déjà aussi calibrée, conçue pour faire du buzz, hein, comme on dit, si on l'utilise effectivement, j'allais dire d'une certaine façon sans recul, parce que on tient compte simplement des métriques. Et on s'est dit, tiens, là, c'est important, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont liké, il y a beaucoup de gens qui ont partagé. Donc, nous nous sentons obligés d'en parler, puisque ça fait le buzz. Ou bien, on conserve une attitude responsable pour le journaliste, qui consiste à faire la part des choses entre ce qui pourrait être une polémique, ou en tout cas un succès, on va dire, artificiel, parce qu'il y a aussi des mécanismes de trucage de tout ça, il y a des bots, il y a des... Par exemple...
Les bots, il faut expliquer à nos auditeurs qu'il s'agit des robots qui permettent de faire remonter les informations sur les fils Twitter, par exemple.
Automatiser la publication et donc de faire monter artificiellement les métriques. Et donc, par exemple, on a déjà vu dans le passé le succès d'un hashtag. On dit, oh, c'est incroyable, regardez tel hashtag, un hashtag qui est un et deux, en tout cas polémique, c'est quand même scandaleux, il y a déjà 100 000 personnes qui... Oui, sauf que si on regarde dans le détail, par exemple, on peut s'apercevoir, c'est déjà arrivé dans le passé, que la majorité des gens qui ont un ont retweeté en fait un message qui dénonçait l'usage de ce hashtag par une minorité active qui l'avait mis en évidence sur un petit cercle de partage. Donc il faut faire très attention à ne pas amplifier, donc à ce que les médias n'amplifient pas non plus artificiellement quelque chose qui est déjà artificiel. Là, il y a une part de responsabilité dans ce que l'on vient chercher sur cet espace, mais de mon point de vue, il n'est pas du tout illégitime, en effet, d'utiliser la parole qui se diffuse là-dedans comme une source comme une autre.
18h39 sur France Culture, vous écoutez Le Temps du Débat. Les réseaux sociaux fixent-ils l'agenda du débat ?
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Les gens me disent de mes mots, pour une fille belle t'es pas si bête, pour une fille drôle t'es pas si laide, tes parents et ton frère ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, t'allais te faire en moi je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Angèle, évidemment, balance ton quoi à propos du balance ton porc. Et effectivement, une fille qui l'ouvre, ce serait normal. On peut effectivement évoquer Mila, puisque c'est une séquence d'échange entre un garçon et une fille qui a mal tourné sur Instagram, qui a conduit justement à ce scandale médiatique que l'on connaît et politique que l'on connaît maintenant depuis presque un mois. Dominique Boulier, tout de même, cette question est intéressante parce que vous évoquez, vous, le réchauffement médiatique, comme on évoque le réchauffement climatique. Vous parlez par exemple de fonte généralisée de la calotte d'esprit critique sur le sur les réseaux sociaux, que j'ai une expression que je trouve assez jolie, effectivement, en pensant qu'il faut réguler la vitesse de ces réseaux sociaux qui nous conduisent d'une certaine façon à aller trop vite. On le sait, on parle d'infobésité, on parle de d'incapacité à récupérer notre attention parce que ça va trop vite. Est-ce que vous pensez effectivement qu'il faudrait d'une manière ou d'une autre éviter de tomber dans ce panneau-là, d'aller trop vite?
Oui, je pense qu'il est temps, on se rend compte qu'en toutes les phases d'innovation, on a laissé faire un certain nombre de choses, et on se rend compte qu'il y a des conséquences en retour qui deviennent terribles pour l'espace public dans son ensemble, et j'allais dire presque pour l'esprit public, donc notre connexion collective, notre façon de poser des questions, de délibérer, etc. Et donc, ce n'est ni un problème de volume seulement, ce n'est ni un problème de mauvaises intentions, parce que souvent on dit, comme une loi en cours de discussion d'ailleurs, laisse le penser qu'il y a des méchants qui veulent diffuser des mauvaises nouvelles.
C'est la loi sur la haine de Laetitia Avia.
Donc le problème c'est que, bien entendu, on peut faire quelque chose
sur les réseaux.
Tout à fait, mais le problème c'est qu'on ne traitera pas le problème si on ne comprend pas qu'il y a un problème de rythme et un problème de capacité de ces réseaux-là à amplifier la propagation. Donc c'est leur structure qui est, du point de vue du modèle d'affaires, organisée pour cela, et techniquement, vous êtes, et c'est ce que disait Arnaud Marcier d'ailleurs, c'est-à-dire que vous retweetez des choses que vous n'aimez pas, forcément, éventuellement, parce que le design même du système est fait pour ça. Pour
valoriser. Pour revoir l'architecture des plateformes.
Alors, il y a un problème, justement, de dire, moi j'appellerais ça du cooling by design, c'est-à-dire comment est-ce qu'on refroidit et qu'on met une pression pour dire l'infrastructure doit permettre de refroidir. Par exemple, alors pour lancer une idée qui évidemment va faire sourire ou être provocante, c'est dire, ben voilà, vous n'avez droit, on limite la vitesse. Comment on la limite sur les routes? On a construit des voitures très puissantes et des autoroutes pour circuler très vite, et on se rend compte qu'il faut limiter la vitesse. Eh bien, c'est la même chose. On a construit un système médiatique ultra rapide, alors qu'on se rend compte que sur le plan mental, sur le plan de capacité critique, il faut pouvoir le ralentir. Donc, par exemple, vous n'aurez plus le droit que poster un tweet par jour, ou à retweeter une fois par jour. Alors là, je peux vous dire, vous commencez à re-hiérarchiser vous-même, comme faisaient les médias avant.
Oui, sur ce point, Jérôme Lèbre, vous parlez, vous, de cure de silence. Vous dites, en fait, face à ces scandales qui s'accélèrent, qui vont trop vite, dans Scandale et démocratie, vous dites, on peut rester dans le silence, affirmer corps et âme le fait d'être là, revendiquer un droit d'exister, qui n'étant pas encore énoncé, communique d'emblée avec le droit d'exister de tous, tenir face à l'injustice et ne pas répondre à la moindre provocation pour répondre vraiment à celles qui font sens.
Oui, comme une sorte d'option, en effet, de retrait et de pertinence. Cela dit, paradoxalement, je serais moins critique vis-à-vis de cette accélération que vient de l'aide Dominique Boulier, parce que quand on la regarde sur le long terme, Elle, c'est aussi celle qui a été adressée au quotidien. Eux aussi allaient trop vite. Et puis, c'est celle qui a été adressée aussi aux chaînes d'information. Hein, France Info, avant les télévisions.
Et, BFM.
Voilà, donc en fait...
LCI, etc.
C'est très difficile de... Enfin, il y a toujours cette tendance à se dire que tout va trop vite. Alors qu'en fait, en effet, il y a des accélérations techniques, mais déjà d'une certaine manière, on en a toujours eu l'habitude. Et puis, elles ont aussi tendance à se renverser. Hein. Par exemple, comme Dominique Boulier le disait aussi, sur cette question du voile, on peut pas dire qu'on aille trop vite, puisque c'est plutôt qu'on stagne, alors qu'on a une loi qui est tout à fait correcte. Le débat stagne depuis 30 ans. Donc, c'est cette différence de rythme qui compte et qui, je veux dire, rendre aussi possible cette expression qu'à mon avis, il faut pas du tout
brider.
Qu'il faut pas du tout brider.
Comme on bride un moteur de voiture. Je vous propose d'écouter un extrait du nouveau podcast de Xavier Delaporte sur France Inter qui s'intitule Le Code a changé. Il interrogeait le journaliste David Dufresne, celui qui a alerté sur les violences policières à partir de son compte Twitter. On l'écoute.
Pour moi, le terrain, le terreau, c'était les réseaux sociaux. Sauf que je voyais bien qu'il y avait une bulle de filtre. D'un côté, les gilets jaunes, de l'autre, les journalistes. Et que ça se rencontrait pas. Contrairement à ce qu'on dit, en réalité, les bulles de filtre, elles se percent. Et donc, c'est ce que je fais, c'est-à-dire que je fais le lien entre des images que je vois sur les réseaux sociaux et que je ne vois pas répercuter chez les petits camarades de journalistes, etc., etc. Comme Twitter est devenu le fil AFP nouvelle manière, c'était une façon d'attirer la presse là-dessus. Parce que, vraiment, au départ, il y a trois trucs. Il y a un, sidération devant la violence policière, que j'étudie depuis 20 ans avec des livres, avec tout ce que tu veux, la sidération devant le silence médiatique et la sidération devant le déni politique. C'est ces trois choses-là. Et donc là, je me dis, tiens, Twitter, c'est peut-être l'endroit, mais pas une seule seconde, j'imagine que ça va prendre l'ampleur que ça a pris, mais si tu veux, ça commence comme ça.
Alors on peut dire effectivement qu'il y a des aspects d'accélération dont on a parlé avec vous, Dominique Boulier, mais Arnaud Mercier, il y a aussi des aspects positifs à cette mise en alerte d'une société sur des faits que l'on ne voit pas ou que les médias traditionnels ne voient pas et que les réseaux sociaux, par l'intermédiaire de leur usage très intelligent tel qu'il a été mis en place par David Dufresne, eh bien peuvent révéler, Arnaud Mercier.
Absolument. Je disais tout à l'heure... tout ce qui se passe sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux peut être utilisé par certains comme un infra-espace public, voire comme un contre-espace public.
On voit bien Céline Morin a évoqué la sphère alternative du discours, disait-elle, à propos des réseaux, des réseaux sociaux.
Absolument, c'est-à-dire que on voit bien comment, par exemple, des groupes extrémistes, d'extrême droite ou d'extrême gauche, etc., qui n'ont pas accès à l'espace public médiatique, ou alors de façon vraiment marginale, peuvent considérer qu'ici, ils ont un lieu de liberté d'expression, c'est ce que disait finalement mon collègue philosophe à l'instant, et que après tout, c'est formidable parce que c'est effectivement la libération pour tout un tas de gens de la possibilité au moins d'avoir droit à dire quelque chose et rencontrer un public qui pense la même chose qu'eux. Après, ça nécessite aussi des régulations, évidemment, puisque si c'est l'appel à la haine, etc., c'est un autre problème. Là, ça tombe sous le coup de la loi. C'est pas tout à fait la même chose que de pouvoir librement exprimer ses opinions politiques. Mais de fait, il se passe des tas de choses qui peuvent être, en effet, utilisées correctement. Et donc, devenir une source pour faire des sujets, pour penser à des choses, pour voir des choses passer, et peut-être alerter le public, l'opinion publique, les journalistes, les personnalités politiques également. Hein, c'est vraiment quelque chose qui est, c'est un moniteur qui est posé là sur le pouls de la société et qui permet de voir des choses. Sur l'aspect, moi je voulais juste intervenir deux secondes sur l'accélération. Je suis plutôt du côté de Dominique Boulier par rapport à notre collègue philosophe qui semblait relativiser la notion, enfin les dangers de l'accélération. Moi j'ai un exemple très concret. C'est la crise qu'il y a eu entre Jean-François Copé et François Fillon au moment de l'élection pour la présidence de l'UMP. On a vu une crise politique se dérouler en direct dans un climat que moi je qualifierais de tempo, de l'urgence absolue, parce que le soir même où ils contestaient l'un et l'autre l'élection, chacun s'accusant d'avoir bourré les urnes et d'avoir voté d'avoir volé le résultat qui aurait fait élire l'autre, eh bien vous aviez toutes les personnalités politiques qui soutenaient l'un ou l'autre, qui intervenaient en direct sur les plateaux télé, qui tweetaient en direct leur colère, leur cri de rage, etc. On voyait sur les plateaux télé des chaînes d'information continue, ils étaient sur leur téléphone en train de voir les tweets, les réactions des uns et des autres. Ils intervenaient en direct pour commenter en direct ce que l'autre avait tweeté en direct. Et on voit bien comment tout ça avait créé un climat plus que délétère, qui fait que la machine s'était emballée toute seule, et où toute l'équipe, les deux équipes, vraiment on était arrivé à des propos extrêmement durs et violents. Et je pense qu'effectivement, ces réseaux sociaux accréditent l'idée que, au bout d'un moment, on se laisse aller et qu'on perd les pédales, on perd le fil et qu'on va au-delà de ce qu'ils auraient raisonnablement voulu faire.
Dominique Boulier, vous avez analysé, en préparant justement votre travail à paraître sur la lutte contre le réchauffement médiatique, des cas, comme vient de le faire également Arnaud Mercier. Vous avez analysé par exemple l'usage des tweets et des réseaux sociaux pour l'ouragan Irma, cet ouragan de Saint-Martin, qui a donc accéléré effectivement la prise de conscience, on s'est rendu compte de ce qui s'était passé, etc. Mais selon des régimes qui, selon vous, sont des régimes excessifs, de frayeur d'un côté, de rage de l'autre, etc., qui pousse à une sorte de d'exacerbation des passions plutôt qu'à un raisonnement froid et équilibré.
Alors, dans ce cas-là, il y a effectivement une forme d'urgence quand il s'agit de mettre en place de la solidarité. Alors, on se dit, bah là, le réseau joue son rôle, hein, je veux dire. Mais, précisément, dans ces moments-là, c'est pas seulement des messages de soutien dont on a besoin, c'est de la coordination. Donc, c'est une activité qui n'est pas ultra réactive, forcément. Mais dans l'autre, le problème a été que, sur ce, dans ce domaine-là, tous ceux qui ont annoncé qu'il y avait des cadavres qui flottaient, qu'il y avait même, il y en avait même qui étaient enfermés dans les frigos de Super U, etc., tout cela a été repris à la même, vous voyez, il n'y a plus de hiérarchie, c'est ça le problème. Donc, et tout cela a été repris à une très grande, avec une grande amplification, qui fait que il y a une prime à chaque fois, parce que, précisément, dans ces messages-là, c'est la vidéo, comme dans le cas de Mila d'ailleurs, la vidéo, des expressions très choquantes, extrêmement émotionnel, etc., qui, bien entendu, capte notre attention. Et donc, on nous empêche d'avoir une réflexivité, on a plutôt de la réactivité.
Alors, on peut dire aussi, par exemple, que sur Twitter, ils n'ont pas simplement inventé le bouton like, mais également ce qu'on appelle les threads sur Twitter, et que parfois, c'est le cas, par exemple, pour l'élection dans le New Hampshire ce matin, on pouvait lire un long thread du journaliste, de l'historien Corentin Célin, qui nous expliquait précisément les votes dans le New Hampshire pour les démocrates. Et c'était très long, c'était presque l'équivalent d'un article, simplement c'est sur Twitter. Donc ça peut donner aussi cette impression d'avoir une complexité qui peut exister sur ces réseaux sociaux que vous critiquez.
Alors on peut effectivement, avec l'allongement d'ailleurs des tweets sur Twitter qui a été fait il y a quelques années, effectivement on voit qu'on est passé à d'autres, ils ont eu un début de compréhension du problème de ce hachage de l'attention qui est lié à cette brièveté, mais le problème reste qui fait que ce qui fait le modèle économique et ce qui fait l'attractivité de Twitter, c'est notamment son bouton retweet et cette capacité à générer de la propagation, quoi. Et cette propagation, elle devient quasiment automatique.
C'est ce que vous appelez les machines à réplication.
Exactement. Et donc, c'est quelque chose, ce sont les messages et leurs propriétés, selon leurs propriétés, qui nous traversent et qui sont, comme on dit dans Mémétique, justement, nous ne sommes plus que des véhicules de ça. Et c'est quand même un peu le problème. C'est ce qu'on voit aussi, d'ailleurs, en virologie, hein. Donc, c'est des choses un peu analogues.
Quel est votre avis sur cette question, Jérôme Lèbre, justement? Est-ce que vous vous placez en contradiction avec votre voisin d'en face, Dominique Boulier, et avec Arnaud Mercier, que nous avons au téléphone?
Non, je pense qu'ils ont raison, mais ce qu'il faut, c'est voir qu'en fait, on peut exister en même temps à des rythmes qui sont extrêmement différents et qu'on n'est jamais complètement happé par un système technique. Tout dépend. Alors, il n'y a pas de moment où quelqu'un est absolument aliéné par un système technique. En fait, quand il l'est, c'est par un système social tout entier. C'est jamais un média qui est responsable de cela.
Vous voulez dire qu'on peut librement s'extraire justement de ce système technique pour faire autre chose, pour vivre autrement d'une certaine façon. Pas simplement pour aller vers le silence, mais simplement pour retrouver ses compagnons de vie ou ses amis et simplement sortir momentanément de ce qui peut vous happer, tel que le décrit Dominique Boulier.
Oui, on peut aussi sortir justement parce qu'il y a des formes de continuité, c'est pour ça qu'il y a des issues. Hein. Justement, le web, c'est d'ailleurs le titre d'un bon livre en français qui est sur le web affectif. Hein. Les réseaux ont toujours joué sur l'affect et les manières d'évaluer les messages, etc. sont calculées de manière très, très psychologique. Et on passe sans difficulté de ces affects que l'on a sur le web à ceux que l'on peut avoir ailleurs. Hein. Et la vie est en fait un feuilletage de rythme. Donc je pense qu'on n'est jamais entièrement pris comme ça dans un rythme particulier. Et que c'est pour ça que finalement le danger n'est pas si grand. Et donc, et c'est pour ça aussi qu'il faut aussi voir L'aspect positif, hein, parce qu'une information très hiérarchique, y compris dans une situation d'urgence, on vient de le voir, pour la Chine, on a presque loué la Chine, on dit « Ah, c'est bien un système autoritaire, finalement, dans des cas d'épidémie », et puis on s'aperçoit qu'en fait, la censure des réseaux a fait perdre 3 semaines sur l'information. Donc, ce qu'il y a, c'est que, voilà, il y a une complexité des rythmes, mais toujours un côté très réversible des moyens techniques. Ça,
c'est-à-dire que la technique, effectivement, peut être utilisée comme on le souhaite en tant que être raisonnable et raisonnant.
Oui, et aussi par ceux qui justement précédemment n'avaient pas le droit à la parole. Hein, par exemple, ceux qui, bon, la plupart du temps, quand on intervient, c'est pour défendre une injustice dont on a été victime.
Bah, c'était le cas pour David Dufresne, voilà. Par exemple, témoin de nombreuses injustices, par exemple.
Il faut voir qu'avant Internet, publier, ne serait-ce que dans des tribunes, c'était quasiment impossible, sauf pour une élite extrêmement restreinte de la population, juristes, universitaires. Les autres simplement ne savent pas construire un article dans les normes, et donc tout simplement pas droit à la parole. Ils essayent. Boltanski a comme ça consulté les masses d'archives des tribunes refusées dans le monde. Hein. C'est tout simplement des gens quelquefois qui ont des cas très importants à défendre, mais ils ne savent pas les présenter. Et au moins, la publication Internet aura permis ça.
Arnaud Mercier.
Oui. Écoutez, moi, je crois que je suis assez d'accord avec cette idée, ça permet quand même de libérer la parole et c'est très bien. Mais là où je suis plus réservé, et avec l'idée qu'on peut faire un usage raisonné, je me cesse de le dire, y compris à mes étudiants, des réseaux sociaux. Mais moi, je voudrais attirer, parce qu'on a beaucoup parlé de Twitter, je voudrais attirer un peu plus l'attention sur Facebook. Le problème d'une machine comme Facebook, c'est une machine qui, justement, est potentiellement un piège, parce que on voit que son algorithme étudie la manière dont nous agissons et réagissons, et du coup en déduit la façon de pousser sur notre page des contenus qui doivent, pour du point de vue de Facebook, nous
correspondre,
nous amener à continuer à réagir, à agir et réagir de la même manière, et donc quelque part nous enferme justement dans quelque chose qui est la passion, le désir de liker, de partager, de commenter, de nous faire réagir. Donc il n'y a pas seulement, c'est pas seulement, j'allais dire, un conflit entre nous et nous, suis-je raisonné et raisonnable, c'est quand même un combat entre notre raison et un dispositif technique qui nous incite à aller vers quelque chose qui nous fait un peu perdre la raison.
Mais Dominique Boulier, est-ce que vous pensez, par exemple, pouvoir, en discutant avec eux, convaincre nos élites politiques, par exemple, de refroidir la machine, soit par des dispositions législatives, soit par une vision plus raisonnée de leur usage propre de ces questions-là, parce qu'ils sont aussi des leaders d'opinion.
Il y a 3-4 ans, je vous aurais dit, c'est désespéré. Maintenant, comme avec Cambridge Analytica et d'autres affaires, ça finit par affecter la réputation et les chances et les formats, disons, des batailles électorales elles-mêmes, leur propre métier, j'allais dire, est mis en cause par ce type de rythme-là et par ce type d'algorithme des plateformes.
Vous voulez dire que quand vous en parlez avec des responsables, c'est peut-être...
Oui, là, ils commencent à se poser des questions, par le fait y compris, parce que tout ça est aussi sujet à manipulation, etc. Donc là, on commence à avoir un problème. Mais on le pose, en mon avis, assez mal. Et évidemment, il ne s'agit pas de restreindre du tout la liberté d'expression de ce point de vue, qui elle-même est encadrée d'ailleurs, mais de traiter le problème de la réplication, ou plutôt de la propagation. Et là, on n'a pas de droit réel de la propagation à cette échelle-là. Quoi. Et il va falloir entrer dans cette discussion.
Comme un droit de la conduite, comme
exactement. Et qui, du coup, va supposer d'intervenir sur les architectures techniques. Alors là, c'est autre chose. Il va falloir avoir une vraie volonté politique.
Quoi. Merci à tous les trois. Merci à vous, Jérôme Lèbre. Je rappelle que vous êtes auteur de Scandale et démocratie chez Desclés de Brouwer. Merci à Arnaud Mercier et à vous-même, Dominique Boulier. On attendra avec impatience à la rentrée prochaine Lutter contre le réchauffement médiatique aux éditions du Passeur. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Rémi Baille, Fanny Richer, Hugo Boursier et Manon Prissé à la technique aujourd'hui, Élise Leheu, à la réalisation, Assia Ralide.